faire un mot de prière. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette journée où nous pouvons tous venir ensemble dans ta maison pour te rendre ce culte par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a expié nos péchés en versant son sang, en mourant pour nous. Et c'est par lui seul, Seigneur, par ce médiateur, que nous nous approchons de toi. Nous ne sommes pas dignes de venir devant toi, mais tout ce qui nous rend indignes est enlevé par le sang de Jésus. Seigneur, on te prie que tu puisses remplir nos cœurs de foi et d'assurance. On te prie que ton Saint-Esprit puisse, par les instants qui vont suivre, au moyen de ta parole, convaincre nos cœurs par la vérité. Qu'il puisse, Seigneur, nous faire voir ta gloire, nous aider à comprendre davantage l'Évangile, à voir comment il a été annoncé depuis le commencement des temps jusqu'à son plein accomplissement en Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur. Édifie-nous ce matin par le ministère de ta parole. Et gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi seul. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Quand on était petit, une des destinations familiales en vacances, c'était on allait en Floride. On est allé très souvent en Floride. Et je me souviens, quand on était petit, qu'on y allait, c'était un peu flou le trajet qu'on parcourait vers notre destination. Parce que quand on est petit, on n'est pas vraiment conscient du monde, de l'environnement et de la géographie, où est-ce qu'on se trouve. Ce que je savais, c'est que c'était loin, la Floride. Tu en as 3 jours se rendre, et pendant 3 jours, tu vois des paysages, tu vois de l'asphalte, tu vois des autos, tu vois des arbres, mais tu ne sais pas vraiment où tu t'en vas, vers quelle direction. Est-ce que tu t'en vas vers l'ouest, vers le nord, et tu n'as pas un sens de l'orientation, petit. Alors, c'était un peu flou, et tout ce que je savais, c'est qu'à un bon moment donné, on arrivait en Floride. Et en vieillissant, à un bon moment donné, mon père m'assoyait à côté de lui comme copilote, et puis me laissait voir la carte routière. Et puis là, c'était plus intéressant parce que je pouvais voir le progrès du chemin qu'on faisait. Et là, j'arrivais plus à m'orienter, et là, je trouvais ça intéressant. On a le même effet des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on prend l'avion. On prend l'avion, puis on sait qu'on emploie des corridors pour voyager. Et on ne sait pas toujours comme exactement où est-ce qu'on se trouve quand on vole. Hein? Et moi, ça me fatigue des fois quand on est en avion. Je me demande, on est au-dessus de quelle ville, de quel endroit. Je ne sais pas si je suis le seul là, que ça agace de pas savoir. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai été sur un vol de Delta et c'était très agréable parce que eux, dans notre écran, ils nous permettaient de voir l'altitude, la température qu'ils faisaient dehors et de voir une carte où on se trouvait, l'endroit où on volait, la vitesse et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai passé tout le vol à regarder, à m'intéresser à ça. Et le fait que je savais où j'étais rendu et où je m'en allais rendait mon voyage beaucoup plus agréable. Et c'est comme ça dans la vie en général. Hein? Quand on ne sait pas vraiment où on s'en va, où on fait juste vivre et puis que la vie est une espèce de flot d'événements flous qui défilent sans savoir quelle est la destination, on est un peu perdu. Et le voyage ne peut pas être aussi agréable et aussi clair et on ne peut pas avoir la même direction que lorsqu'on sait où on s'en va. Alors, quelle est la carte routière qui peut éclairer la vie des hommes? Nous lisons dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, c'est ce qui éclaire notre chemin et qui nous permet de voir, d'avoir une direction claire. Et donc, c'est vrai pour la vie en général, pour notre marche quotidienne. Et c'est vrai aussi dans notre lecture de la parole. Des fois, quand on lit la parole, on peut juste la lire et on a plein de beaux petits paysages qu'on voit, si on peut prendre l'image de la route qu'on parcourt, sans nécessairement voir le chemin global, sans nécessairement avoir une vue d'ensemble. Hein, comme quand on est en forêt, on voit beaucoup les arbres et ce qui est devant nous, mais on n'a pas une vue d'ensemble sur la forêt qu'on parcourt. Et des fois, notre lecture des Écritures ressemble à ça. Et j'ai commencé donc ma série sur l'Épître aux Hébreux le 30 mars 2008. Ça fait longtemps, hein? mais j'ai arrêté pendant un petit moment après le chapitre 8. Et là, je me demande ce matin si vous êtes un peu perdu. Si vous avez perdu de vue, là, si vous ne voyez plus la carte. On a d'une semaine à l'autre des expositions et puis on voit des belles vérités, des beaux paysages, si on veut, de la doctrine de l'Évangile. Mais est-ce que vous avez perdu la vue d'ensemble de l'Épître aux Hébreux? Et pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je baigne dedans et je passe des heures et comme conducteur, donc je vois la carte et je vois qu'est-ce qu'on a vu et où, dans quelle direction qu'on s'en va. C'est plus facile de suivre le flot, mais je me suis rappelé que peut-être que pour les passagers, le voyage pouvait peut-être devenir plus ennuyeux s'ils perdaient de vue un peu l'objectif et la carte. Alors, on va essayer de se situer ce matin, on va essayer de voir où nous sommes rendus. Je ne vais pas réviser là, les 9 premiers chapitres qu'on a traversés, mais simplement de rappeler des données essentielles pour qu'on ait cette vue d'ensemble. D'abord, concernant l'auteur, les destinations, le but de l'Épître aux Hébreux. L'auteur, on ne sait pas c'est qui. Hein? C'est pour ça que je l'appelle l'auteur toujours. Beaucoup ont dit que c'est peut-être l'apôtre Paul. Il y a plein de noms qui ont été suggérés, mais on ne peut pas l'affirmer de manière définitive. Par contre, c'est plus pertinent pour nous de savoir qui étaient les destinataires et quelle était leur situation précise. Alors, on l'appelle l'Épître aux Hébreux parce qu'elle était destinée à des gens d'origine juive, des Hébreux, qui s'étaient convertis à Christ, qui avaient une attente messianique comme tous les Juifs, mais eux, plutôt que de rejeter Jésus, avaient cru que Jésus était le Christ et que c'était lui qui accomplissait donc, les promesses de l'Ancien Testament et avaient cru en lui et s'étaient convertis à lui. Mais là, ils ont eu beaucoup d'attentes qui ont été frustrées. Ils espéraient voir un royaume glorieux, ils espéraient une délivrance, ils espéraient la prospérité, le bonheur attendu, vraiment quelque chose de glorieux, et ils ne voient rien de cela. Au contraire, ils ont des persécutions, des souffrances, et il ne semble pas évident que Christ règne et qu'il est véritablement le Messie, de sorte que plusieurs remettaient en question la véracité du Christ comme de Jésus comme Christ comme Messie et songeait très sérieusement à revenir au judaïsme, à délaisser le christianisme et revenir à leur pratique de l'époque, à repratiquer les sacrifices au temple et continuer d'attendre que le Messie vienne parce qu'il ne semble pas finalement être venu. Et ça, c'est l'occasion qui a amené la rédaction de l'Épître aux Hébreux. L'auteur voit qu'il y a un grave danger pour ses destinataires de mécomprendre la parole de Dieu. Alors, il leur écrit cette belle lettre. Et dans cette lettre, il leur explique l'œuvre de Christ. Il leur montre, surtout à partir des institutions de l'Ancien Testament, à partir de ce qu'ils connaissent et leur pratique qu'ils ont eue depuis qu'ils sont enfants, le temple, les prêtres, les sacrifices. Et il leur montre comment tout l'Ancien Testament était une figure qui préparait la venue de Christ. Et il leur montre comment Jésus est le véritable sacrificateur, que tous les autres étaient temporaires et que leur médiation n'accomplissait pas véritablement la rédemption et une médiation efficace entre Dieu et le peuple. Et il montre que le sacrifice de Christ est le véritable sacrifice efficace qui expie définitivement le péché. Et il fait tout ça à partir des écrits de l'Ancien Testament. Et ça, c'est quelque chose de très, très persuasif quand quelqu'un dit que la parole de Dieu, c'est juste que la Bible, c'est juste un livre des hommes et une collection de traditions, de récits ancestraux, eh bien, ça démontre une méconnaissance des Écritures, parce que l'Écriture, l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ avec beaucoup de précision. Et lorsqu'on est confronté à ce fait, bien, on doit admettre qu'il y a quelque chose de divin pour nous avoir annoncé des siècles à l'avance un homme qui allait venir et avoir préfiguré dans le détail, les éléments de sa venue, eh bien, on se dit, ça ne peut pas être juste des hommes qui ont pensé à cela et qui ont annoncé avec précision des événements qui allaient se produire. Alors, il leur montre comment Jésus a accompli toutes les promesses, tout ce qui était attendu, comment il est véritablement le fils de David et qu'en ce moment, même si on ne voit pas que toute chose lui soit soumise, il règne et qu'il est le fils de David qui siège éternellement sur le trône et que ce n'était pas comme eux le pensaient, que ça n'allait pas être un règne terrestre à Jérusalem, mais qu'il est, que c'est un règne universel, céleste, et qu'il y a une attente encore et qu'on se trouve un peu comme les gens de l'Ancien Testament, dans l'attente des choses promises, d'un accomplissement final et ultime, et qu'on doit, comme eux, persévérer, eux qui ont vu et salué de loin les choses qu'ils attendaient et qui les ont discernées par la foi, ben les croyants de la Nouvelle Alliance, qui ont vu beaucoup plus d'accomplissements que ceux de l'Ancienne Alliance, se trouvent aussi dans cette attente, et ils doivent persévérer par la foi jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, pour voir ça. Alors, c'est ce qu'il veut leur montrer dans tout son épître, et en suscitant en eux la foi. Hein, c'est une idée clé, c'est un thème central, la foi, marcher par la foi, voir, et vous vous souvenez le dernier message que j'ai apporté sur David et Goliath, la perspective de la foi, voir ce que les yeux, ce que la perception naturelle ne peut pas discerner, ce que la foi seule peut voir. Et l'Épître aux Hébreux, comme la plupart des épîtres du Nouveau Testament, est construite de la manière suivante, doctrine, exhortation. Si vous lisez les épîtres de Paul particulièrement, il commence toujours par expliquer objectivement ou à l'indicatif qu'est-ce que Christ a fait. Et il ne donne pas un impératif, il ne donne pas une exhortation, il dit « voici les faits, voici le salut » et il nous décrit. Et ensuite suit une exhortation. Conséquemment à ce qui vient d'être dit, conséquemment à cette vérité, à cet évangile, vivez de cette manière. Et l'épître aux Hébreux, c'est la même chose. On a la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ qui nous est présentée dans les 10 premiers chapitres. Et au milieu du 10e chapitre, à partir du verset 19, il passe à l'exhortation. Considérant tout ce qui a été dit, considérant cet évangile, considérant l'accomplissement des promesses de Dieu, vivez de telle manière. Alors, on s'approche bientôt de cette exhortation qui suit. Et donc, le chapitre 10... est un peu comme le chapitre pivot qui récapitule dans les 18 premiers versets, qui réaffirme encore une fois l'œuvre de Christ pour ensuite passer à l'exhortation qui suit conséquemment. Et dans ce chapitre, l'auteur nous montre que par sa mort, par la mort de Jésus, Christ a fait deux choses. Il a établi la Nouvelle Alliance. Donc, Jésus lui-même l'a dit le jour où il a pris le repas avec ses disciples. Il dit « Voici la Nouvelle Alliance en mon sang. » Il a établi une Nouvelle Alliance par sa mort, par son sang. Mais il a fait quelque chose d'autre. Il a aussi aboli l'Ancienne Alliance. L'œuvre de Christ donc a accompli, établi la Nouvelle Alliance et aboli l'Ancienne Alliance. Et c'est ce qui nous est expliqué au chapitre 10. En affirmant l'abolition de l'Ancienne Alliance, l'auteur soulève plusieurs questions et il va y répondre. Et c'est ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Hébreux 10, 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, les péchés. Alors, ce texte dit simplement ce qu'on a déjà dit, affirmé à plusieurs reprises, à savoir que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas purifier le péché. Et il démontre cette affirmation de deux façons. Premièrement, il dit que la répétition constante des sacrifices était une évidence que le péché demeurait. Si le péché avait été expié, on n'aurait pas eu besoin de répéter encore. Et deuxièmement, il dit que les assistants, c'est les adorateurs. Le terme grec veut dire ceux qui venaient et présentaient l'offrande, donc c'était ceux qui adoraient. n'avaient pas reçu l'assurance du pardon. Ils continuaient à offrir les sacrifices parce que Dieu leur a jamais donné, leur a jamais annoncé par sa parole que leur péché était expié et ils n'avaient par conséquent, ils avaient encore conscience du péché, ils n'avaient pas l'assurance du pardon. Alors donc, ces deux arguments, la répétition des sacrifices et l'absence de l'assurance du pardon, pour l'auteur, c'est l'évidence que les sacrifices d'animaux, il termine au verset 4, n'expiaient pas le péché. Ils étaient inutiles pour enlever le péché. Il n'y a jamais un seul péché qui a été ôté par le sang versé des animaux. Et ça soulève immédiatement une question. Quelle était l'utilité des sacrifices? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est une question qui est importante parce que c'est partout dans l'Ancienne Alliance. Il y a une grosse partie de la Bible qui devient complètement absurde et impertinente pour nous si on ne comprend pas l'utilité des sacrifices. Je me souviens que je recevais, quand j'ai commencé, je faisais la série sur l'Épître aux Hébreux, je faisais aussi des capsules pour ces fois qui étaient diffusées à Québec, des capsules linguistiques sur les mots. Et puis je recevais souvent les commentaires d'un auditeur qui n'était définitivement pas chrétien et il me disait que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, c'était un culte satanique. Et quand Jésus dit « Vous avez pour père le diable », il parle de Moïse qui était un grand prêtre sataniste et puis qui incitait les gens à faire des sacrifices d'animaux et puis que Jésus est venu abolir ça. J'ai dit « Je pense que vous ne comprenez pas vraiment les Écritures ». Alors, à quoi ça sert de comprendre? Est-ce que c'est juste pour répondre aux contradicteurs? Est-ce qu'il y a une utilité quelconque pour nous de savoir à quoi ça servait parce qu'on n'a jamais vécu sous cette dispensation? Alors, quelle est la pertinence de tout ça? L'apôtre Paul pose une question similaire. Il demande c'est quoi l'utilité de la loi? Dans Galates, chapitre 3, verset 19, après avoir affirmé que l'héritage promis à Abraham, ne s'obtient pas par la loi. Et par loi, il inclut, il désigne pas spécifiquement les sacrifices, mais il inclut la loi lévitique et les sacrifices. Il dit, pourquoi donc la loi? Il vient de dire, la loi, elle ne pouvait pas donner l'héritage. Et donc, elle ne pouvait pas donner le salut. Elle ne pouvait pas expier le péché. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été donnée? Et il répond, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Cet élément de réponse, qu'elle a été donnée à cause des transgressions, se comprend à la lumière d'un deuxième élément de réponse qu'il donne juste un petit peu plus loin, au verset 23 et 24. Il dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc, avant l'arrivée de la foi, et Paul ne veut pas dire que la justification par la foi n'a pas existé avant l'Évangile, parce que le même apôtre nous démontre qu'Abraham a été justifié par la foi et que ça l'a précédé même l'alliance avec Moïse au Sinaï. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire avant l'arrivée de la foi? Ce n'est pas que la foi n'existait pas, elle existe depuis que l'homme a péché, que Dieu a commencé à justifier l'homme par la foi. Mais il veut dire avant l'arrivée de l'alliance de la foi, de son accomplissement, qui est la nouvelle alliance. Avant que cette alliance de la foi, qui est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, soit donnée, afin que la promesse ne se perde pas, afin que ce que Dieu avait promis, qu'il avait promis qu'il enverrait la descendance d'Abraham pour sauver le peuple, et pour pas que cette promesse soit perdue à cause des péchés, à cause des transgressions, à cause que le peuple se serait laissé aller à l'idolâtrie et la promesse se serait perdue. Donc, Dieu a placé cette promesse-là dans une alliance, dans la loi, dans l'ancienne alliance. Et cette alliance-là était un pédagogue qui devait garder le peuple, était la gardienne de la promesse jusqu'à Christ. Et ce n'était pas simplement en attendant comme ça temporairement que Christ vienne, mais elle devait diriger positivement vers Christ. L'ancienne alliance, son but, ce n'était pas juste de garder là, en attendant, je vous garde enfermé. Elle gardait le peuple, mais elle le conduisait, elle menait positivement vers Christ. Alors, comment, et ça c'est la question qu'on se pose et qu'on va répondre ce matin, comment l'ancienne alliance a été une gardienne du peuple et un pédagogue jusqu'à Christ? Et le texte qu'on a lu, Hébreux 10, 1 à 4, répond à cette question de deux manières différentes. Ou si vous voulez, il nous montre que la loi a gardé et a conduit à Christ de deux façons. Premièrement, c'est mon premier point, la loi menait à Christ en étant l'ombre des biens à venir. On lit versets 1 et 2, on peut le remettre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? La loi, qui inclut ici la loi lévitique, les sacrifices, pouvait aucunement offrir le salut. Et c'est ce qu'il dit. Elle possède une ombre des biens à venir et elle n'est pas l'exacte représentation de ses biens. Elle n'est pas le don, elle n'est pas le salut lui-même. Elle est une ombre. L'ombre est toujours distincte de la réalité. Si vous voyez, vous le voyez peut-être pas. J'ai pas beaucoup d'ombre ici, on a mis des trop bons spots qui éliminent les ombres. Mais une ombre, c'est toujours distinct de sa substance. Mais en même temps, c'est inséparable. L'ombre n'est pas la substance, mais elle révèle quelque chose de la substance. Elle révèle quelque chose de nos corps. Quand on marche le soir, on voit l'ombre qui est le fond. L'ombre correspond, à peu de choses près, à notre physionomie, au corps, à notre grandeur, et ainsi de suite. Elle n'est pas la substance elle-même. Ce n'est qu'une ombre, mais c'est un reflet et qui est rattaché à la réalité de l'objet. Les sacrifices d'animaux n'étaient pas la réalité, n'accomplissaient pas le salut, mais ils étaient l'ombre de cette réalité. Ils étaient rattachés, ils reflétaient quelque chose et ils servaient à conduire à cette réalité. Tu sais, quand on écoute les petits bonhommes, vous écoutez les petits bonhommes des fois, les enfants, et on voit des fois dans les bonhommes, dans les Bugs Bunny en particulier, il me semble qu'on voit ça souvent, où là, tu as un personnage qui fuit un autre et puis là, il est certain de l'avoir semé et on voit l'ombre du personnage qui arrive derrière. Et là, il sait qu'il est dans son ombre, mais il ne voit pas, mais il sait qu'il est là, il est derrière lui parce qu'il voit son ombre. L'ombre est toujours rattachée à la réalité. Alors, les sacrifices n'étaient que l'ombre et ils n'étaient pas la réalité, ils n'accomplissaient pas la véritable rédemption, mais ils étaient le reflet de ce que Christ allait faire. Il n'y a pas d'ombre sans réalité. Alors, dans ce sens-là, quand Paul dit « la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ », il y a ce sens-là où, en étant une préfiguration de l'Évangile, les sacrifices menaient à l'Évangile. Ils illustraient l'Évangile, ils étaient une prédication de l'Évangile. Maintenant, est-ce que le peuple de l'Ancien Testament savait que la loi n'était qu'une ombre? Est-ce qu'eux avaient pris conscience que ce n'était pas la réalité? Il me semble évident que tout le peuple n'a pas compris ça. Mais il me semble aussi évident que ça leur a été révélé dans l'Ancien Testament et que beaucoup l'ont compris et que par conséquent, ils ne se sont pas attachés à la loi et à sa réalité immédiate, mais ils ont vu au-delà. Par exemple, David dit dans le psaume 51, versets 16 et 17, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David avait compris que le salut et la grâce s'obtenaient non pas par les sacrifices, mais par la repentance. Le sacrifice que Dieu, ce qui lui plaît vraiment, c'est la repentance, un cœur brisé, contrit, celui qui se repent et qui croit, qui espère dans sa miséricorde. C'est exactement ce qu'on croit, n'est-ce pas? Mais bien que les sacrifices n'offraient pas le salut, c'est quand même Dieu qui les a exigés. Et il les a exigés parce que ces sacrifices devaient refléter l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on y pense, ils le reflétaient véritablement. Qu'est-ce que montraient les sacrifices? Ils montraient ce grand principe que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les sacrifices, c'était des offrandes pour le péché, des offrandes qui n'expiaient pas le péché, mais elles étaient données pour l'expiation des péchés sans y arriver, et elles montraient que le salaire du péché, c'est la mort. Et pas n'importe quelle mort. Il ne suffit pas de mourir, on n'a pas pu juste amener une bête morte ou amener un cadavre pour dire « voilà la mort qui s'est exécutée ». La mort comme une sentence, comme une peine, un châtiment. Le sang doit être versé. Et ces sacrifices montraient que ce n'était pas le pécheur qui mourait pour son péché, mais que c'était un substitut, une victime innocente. Et l'innocence de cette victime annonçait déjà la justice du Christ, qu'il allait se charger des péchés sans lui-même être un pécheur. C'était que l'ombre, mais c'était déjà une prédication de l'Évangile. Souvenez-vous des paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il voit Jésus qui vient à lui dans le Jourdain. Jean-Baptiste est un croyant qui vit sous l'Ancienne Alliance. Il est mort avant l'établissement formel de la Nouvelle Alliance. Et il dit, lorsqu'il le voit, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette compréhension qu'avait Jean démontre que la loi avait déjà mené plusieurs à la réalité de Christ. Que plusieurs, par l'ombre, ne sont pas attachés à l'ombre, mais ont été conduits vers la réalité. Et il a vu que tous les agneaux et tous les boucs, ce n'était pas eux qui expiaient le péché, mais lorsqu'il a vu le Christ, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte véritablement le péché ». Comment est-ce qu'il a pu comprendre que Christ était l'agneau? Et qu'est-ce que ça signifiait, cette parole? Si on enlève la loi, si on enlève le Lévitique de toute l'histoire d'Israël, cette phrase deviendrait complètement insensée. Si comme ça, en dehors de nulle part, Jean dirait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et qu'il n'y avait pas eu des millénaires de traditions et de sacrifices, les gens l'auraient regardé et disent « Qu'est-ce que tu dis là, toi? » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les gens comprenaient que l'immolation d'un agneau servait pour couvrir le péché, et il a compris que ce n'était que l'ombre, et voici le véritable sacrifice. Donc, le Lévitique, la loi, a été une ombre pour conduire à Christ. Et la véritable attente messianique a toujours vu les souffrances de Christ dans l'Ancien Testament. On ne peut pas se fier aux gens de l'époque de Jésus pour dire que c'était ça l'attente messianique. Eux, ils attendaient un messie politique. La véritable attente messianique, c'était ce que l'Écriture disait. Depuis Genèse, chapitre 3, verset 15, en passant par Ésaïe 53, tout l'Ancien Testament annonçait d'avance les souffrances de Christ. L'apôtre Pierre dit, dans sa première épître, au chapitre 1, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » L'Ancien Testament était une prédication de l'Évangile. À bien des égards, parce qu'il annonçait d'avance les souffrances de Christ. Il annonçait par des institutions, par des prophéties directes, que le Christ allait venir et qu'il allait souffrir pour les péchés. Et c'est en ce sens-là que cette loi a été un pédagogue pour conduire les croyants avant Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ. Et le texte continue en nous présentant une deuxième façon que la loi menait à Christ. Et c'est mon deuxième et dernier point. Versets 3 et 4. « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Donc, la première façon que la loi menait à Christ, c'est en étant l'ombre des biens à venir. La deuxième façon que la loi menait à Christ, c'est en rappelant le souvenir des péchés. Le temps a quelque chose de circulaire, hein? Et je pense qu'il y a quelque chose de circulaire parce que la Terre tourne autour du Soleil, de sorte que les mêmes saisons se succèdent comme un cycle, hein? C'est circulaire. Et on revient à des époques similaires à chaque année, même si on voit, on peut imaginer la ligne du temps comme quelque chose de linéaire, et là en même temps quelque chose de circulaire. Et donc il y a des événements qui reviennent année après année. On fête une fois par année, on fête Noël, on fête le premier jour de l'année, le jour de l'an, et des anniversaires, un anniversaire de naissance. Et généralement, on répète ces célébrations parce qu'on les voit comme un souvenir joyeux, quelque chose qu'on veut se rappeler, qui est positif, ou quelque chose que pour une raison ou une autre, on ne veut pas oublier. Bien, chaque année, il y avait en Israël une grande célébration qu'on appelait le Yom Kippour. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Ça veut dire quoi, Yom Kippour? Oui, voilà, le jour des expiations. Yom veut dire jour, Kippour, de l'expiation. Donc, c'était une fois l'an, en Israël, il y avait un jour consacré au sacrifice. Et on le voit dans le Lévitique, chapitre 16, où ça nous décrit qu'est-ce qu'allait faire le grand prêtre. Et l'Épître aux Hébreux est construite en grande partie sur une interprétation à partir de Christ de ce que signifiait ce jour-là, le Yom Kippour. Et plusieurs Juifs voyaient ce jour comme une bonne nouvelle, une grande célébration joyeuse où on se réjouissait du pardon que Yahvé, l'Éternel, avait accordé, où on se rappelait l'expiation. Bien, l'auteur, lui, voit les choses complètement différemment. Il dit « La répétition annuelle de ce jour est l'évidence même que les péchés du peuple n'ont pas été expiés. Parce qu'à chaque année, il faut que vous recommenciez. Et s'il avait été expié, ça serait plus nécessaire de le refaire. » Et c'est ce qu'il dit au verset 3. « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. » Mais la traduction de Louis II ne rend pas bien le sens du verset, qui va plutôt comme suit. Le prochain, si tu veux, Antoine. « En ses sacrifices, il y a un mémorial annuel des péchés. » C'est le mot « mémorial » sur lequel je veux attirer votre attention. Louis II n'a pas bien rendu le sens technique du mot « souvenir ». Il ne s'agit pas d'un simple souvenir de quelque chose qu'on se rappelle, de quelque chose de la mémoire, mais il s'agit d'un mémorial. Et le même mot est employé 4 fois dans le Nouveau Testament, donc ici puis 3 autres fois. Et vous savez, c'est dans quel contexte qu'il est employé les 3 autres fois? Luc 22, verset 19. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci comme un mémorial, en souvenir. Ce que Jésus voulait dire par là, ce n'était pas simplement « Rappelez-vous de tout ça une fois de temps en temps, comme juste un souvenir intellectuel, un souvenir psychologique, psychique. » Mais il voulait dire « Faites ceci, voici un rituel, un mémorial qui a une valeur sacramentelle, qui est plus que juste un souvenir dans les pensées, mais qui est un rituel qui vous lie à une réalité, qui vous met en communion avec quelque chose. Alors, ce n'est pas juste un souvenir mental, c'est un acte remémoratif, un sacrement. Et c'est très intéressant de comparer les deux mémoriaux. les sacrifices de l'Ancien Testament et la Sainte Cène. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de connexe entre les deux. Hein, les sacrifices, le sang de la victime était versé, puis les adorateurs mangeaient la chair de la victime. On mangeait la viande. Et on se souvient à la Pâque, hein, la sortie d'Égypte. Ils ont mangé la Pâque. Et Paul fait un rapprochement. Il nous montre que la Pâque véritable qui a été immolée pour nous, c'est le Christ. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, eh bien, il y a cette idée qu'on mange la Pâque, qu'on mange le sacrifice, qu'on vit de sa vie, on s'identifie à sa mort et à sa vie. Et l'Écriture appelle ces deux, la scène et les sacrifices de l'Ancien Testament, les appelle tous les deux des mémoriaux. Mais il y a une discontinuité fondamentale entre les deux, qu'il ne faut pas manquer. Les sacrifices ne rappelaient pas la même chose que la Sainte Cène. Les sacrifices rappelaient le péché. Ils rappelaient que le péché n'était pas expié. Imaginez-vous venir année après année pour vous faire rappeler que vous êtes des pécheurs et que Dieu ne vous a pas accordé le pardon, que votre péché n'est pas expié. Et Dieu ne veut vraiment pas que vous oubliez. Et avec ce mémorial-là, qui va durer des millénaires, c'est ce qui vous est rappelé constamment. En ces sacrifices, il y a un mémorial annuel des péchés. Nous prenons le repas du Seigneur une fois par mois. Un mémorial. Nous venons à sa table. Et en ce mémorial, nous nous rappelons que nos péchés ont été expiés, qu'ils ont été abolis, qu'ils ont été enlevés une fois pour toutes, que la mort n'est plus, que nous avons la vie éternelle. La scène rappelle la fin du péché. Avez-vous noté le titre de mon message? Sans regarder, ne regardez pas sur votre feuille. C'est quoi? Voilà, hein, c'est un drôle de titre. L'utilité de l'inutilité des sacrifices. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que les sacrifices d'animaux étaient inutiles pour expier le péché, ça avait une grande utilité. C'était voulu par Dieu. Alors, quelle était l'utilité de leur inutilité? Ben, de conduire à Christ. Le souvenir des péchés était rappelé annuellement par ces sacrifices. Alors, ça forçait le peuple à espérer en la miséricorde de l'Éternel. Puisque ces sacrifices ne servaient pas à expier leurs péchés, puisqu'il leur rappelait, puisque Dieu ne leur avait pas, par sa parole, annoncé son pardon et donné l'assurance que leurs péchés étaient expiés, qu'est-ce qu'il leur restait? Sur quoi est-ce qu'ils pouvaient s'accrocher? Il leur restait qu'à espérer dans la miséricorde de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit qu'on fait tous les croyants véritables dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas cru dans l'utilité des sacrifices, mais ils se sont confiés dans la bonté de l'Éternel. Et ils ont espéré en la délivrance du Messie. Ils ont espéré dans les promesses de Dieu qui annonçaient qu'il viendrait un libérateur, qui écraserait la tête du serpent, et qui viendrait que si vos péchés sont cramoisis, ils vont être ôtés, ils vont devenir blancs. Vous allez être lavés. Et les sacrifices inutiles étaient une espèce de sacrement pour les faire se tourner vers Christ, un mémorial pour leur rappeler qu'ils n'avaient aucun autre espoir. En même temps que ces sacrifices étaient une prédication de l'Évangile pour eux, leur montraient qu'ils allaient être épargnés, qu'une victime verserait son sang à leur place. Alors on voit la continuité de l'Évangile. L'Évangile est parfois envisagé par certains chrétiens comme quelque chose qui est juste évident dans le Nouveau Testament et qui ne commence pas avant, dont on n'a pas un indice, on n'a pas de trace avant le Nouveau Testament, avant la prédication des apôtres. Et c'est complètement faux. L'Évangile, c'est le thème général de toute l'Écriture, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui va un peu comme un lever de soleil. Le soleil qui plombe à midi, dans toute sa clarté. C'est le même soleil qui n'avait que quelques petites parcelles, des petits rayons à 5 heures le matin, qui est venu progressivement et qui a éclairé et qui a dissipé les ténèbres. L'Évangile a un point à l'horizon, au début de la révélation, par quelques rayons lumineux comme ça, jusqu'à ce que l'astre lumineux complet, Christ, vienne dans le monde et qu'il éclaire totalement. Paul dit ceci, Galates 3:21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ?» La loi avec ses exigences, la loi avec sa condamnation, n'allait-elle pas dans un sens contraire des promesses de Dieu ? N'allait-elle pas dans un sens contraire du salut et de la vie éternelle ? À première vue, c'est l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on regarde l'Ancien Testament et sa loi. On a l'impression que ça va, c'est une idée contraire et ça va dans une direction opposée aux promesses de Dieu et à l'Évangile. Et la réponse de Paul, c'est « loin de là ! Pas du tout !» Et c'est très fort comme affirmation, le mot grec. « Megenoito !» C'est dit avec une grande assurance, la loi n'est pas contraire aux promesses de Dieu et elle ne va pas dans une direction opposée. Alors explique-nous ça, Paul. Et c'est ce qu'il fait. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Qu'est-ce que Dieu a fait avec sa loi, avec l'Ancienne Alliance? Il l'a donné en vue de l'Évangile pour l'accomplissement de l'Évangile. Il ne l'a pas donné temporairement à côté de l'Évangile juste pour garder les gens en prison dans une loi rigoureuse, mais il l'a donné pour l'accomplissement de l'Évangile. Dieu a tout renfermé sous le péché. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Comment est-ce que Dieu a tout renfermé sous le péché? D'abord en rappelant annuellement le péché. À chaque année, les sacrifices étaient un mémorial du péché. Dieu a enfermé sous le péché en rappelant le péché continuellement pour s'assurer que tout le monde sache qu'il est un pécheur et qu'il est coupable et qu'il n'y a aucune issue. Comment est-ce que Dieu a tout renfermé sous le péché? Par l'impossibilité d'expier le péché par les sacrifices d'animaux, par quelque œuvre humaine. Il était impossible de faire quoi que ce soit par l'homme. Pour se délivrer de ce péché, Dieu l'a renfermé sous ce péché par sa loi. Par l'impossibilité d'obéir à Dieu, Dieu a donné sa loi pas dans l'idée que quelqu'un allait être capable d'accomplir la justice de Dieu, mais pour décourager qui que ce soit, pour qu'ils comprennent qu'ils étaient absolument incapables de se conformer aux exigences. Et la seule chose qui reste maintenant à l'homme, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu les a renfermés dans le péché par sa loi pour qu'il ne leur reste qu'un seul espoir, Christ, un libérateur, un sauveur. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas de l'aide psychologique, ce n'est pas un problème politique fondamentalement que l'homme a. Ce qu'il a besoin, c'est d'un sauveur. Il a besoin d'un rédempteur. Et Dieu avait bien l'intention de lui donner depuis le commencement. Ce sauveur, c'est le Christ. Et Paul veut nous montrer que la loi et l'Évangile ne sont pas allés dans deux directions différentes. Même s'ils semblent vraiment opposés et contraires l'un à l'autre, même si l'Ancienne Alliance semble complètement un autre système, il dit non, c'était une ombre qui reflétait ce que Dieu allait faire et en même temps c'était une gardienne, un pédagogue qui, en nous enfermant dans le péché, nous conduisait vers la seule issue qui restait, le Christ. Elle dirigeait spécifiquement à Christ. Et c'est ce qu'il dit explicitement dans les versets qui suivent, versets 23 et 24, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » C'est beau, hein? L'Évangile, ça a été le projet de Dieu dès la chute. L'Écriture nous dit que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, qui aux yeux de Dieu, c'était son plan, cet évangile-là, de révéler sa grâce. Ça n'a pas été un plan B, ça a été un plan A et le seul plan, c'est le seul plan de l'Écriture. Et il est absolument impératif que nous nous entendions l'Évangile comme trame de fond dans l'Ancien Testament. Peu importe ce qui peut, à première vue, nous apparaître contraire à cet Évangile, c'est vraiment la trame de fond qui devient de plus en plus intense et c'est la symphonie du Nouveau Testament. Et on voit l'unité du plan de Dieu au travers toute l'histoire de la révélation, le progrès de cet évangile qui est le thème central de toute la révélation. C'est absolument important de comprendre la direction fondamentale de l'Écriture à partir de l'Ancien Testament jusqu'à sa plein accomplissement dans le Nouveau Testament. Au début, je vous ai demandé, hein, je comparais à une carte routière et des fois quand on voyage et qu'on ne sait pas où on s'en va. Si on n'a pas cette perspective globale sur les Écritures, ça devient un petit peu ennuyeux, lancinant de lire l'Ancien Testament parce qu'on ne comprend pas là où ça menait. On ne voit pas, on n'entend pas la trame de fond de l'Évangile qui jouait déjà les accords de la grâce de Dieu. Et lorsqu'on prend un recul et qu'on laisse l'Écriture s'interpréter elle-même, lorsqu'on laisse les apôtres parler, nous montrer comment tout ça s'accomplit en Christ et était déjà présent, on a une perspective globale, on voit l'ensemble de la direction et ça nous permet, alors qu'on chemine, de voir où on est rendu. Lorsqu'on traverse les Écritures, de voir qu'elles nous parlent de Christ. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Toute l'Écriture l'annonçait d'avance. Bien-aimé, réalisez la grandeur de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement moi et Jésus. Quelque chose pour mon bien-être. On parle des feel-good movies, hein, des petits films là, qui nous font du bien. Mais pour beaucoup de gens, l'Évangile, c'est un feel-good something. Hein, quelque chose juste pour mon bien-être. Sans voir la grandeur de l'Évangile et comment ça dépasse notre vie. L'Évangile est au cœur de l'histoire de l'humanité. Du commencement du monde à la fin du monde. C'est l'intention de Dieu pour l'homme. Et nous sommes les héritiers de ce message, d'une histoire, d'une réalité qui dépasse notre vie. Notre vie a du sens parce qu'elle s'insère dans cette histoire sainte. Nous sommes dans ce méta-récit, dans ce grand récit que Dieu nous raconte. Il est pertinent pour nous parce que nous faisons partie de cette histoire. Et j'espère que chacun de nous est frappé par la gloire mystérieuse de cet évangile. Je dis mystérieuse parce qu'il y a quelque chose de caché. Le mot mystère veut dire caché, mais qui a été révélé. Et Jésus dit, « Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. » Tous ne voient pas, n'ont pas la perspective, ne comprennent pas ces choses, ne comprennent pas les Écritures. Et même, je dirais que beaucoup de gens qui professent la foi ne voient pas ce mystère de l'évangile et la grandeur de l'évangile. Et si c'est votre cas, si vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de gros, si vous ne comprenez pas qu'il n'y a rien de plus gros que cet évangile, qu'il n'y a pas d'événement, les gens s'excitent. Vous souvenez, les Beatles ont sorti un album qui était intitulé « Bigger than Jesus ». Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est plus gros que Jésus. C'est plus important. L'impact qu'on a dans le monde, la popularité, le sens de notre venue est plus pertinent que Jésus. C'est tout un blasphème, c'est tout un sacrilège d'affirmer ça, mais ça fait montre d'une ignorance extrême, d'un aveuglement total, de croire qu'un événement humain quelconque, l'avènement de qui que ce soit, peu importe ce qui peut arriver, nos projets ou les événements mondiaux n'auront jamais l'importance, la grandeur, la gravité de l'Évangile. Et si dans nos pensées, dans nos cœurs, l'Évangile ne reflète pas cette priorité et ce sentiment, demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on voit clairement. Si pour nous, c'est juste une question d'aller à l'église le dimanche matin, d'avoir une certaine structure des croyances, sans voir la grandeur, l'éclat, la gloire, que c'est le projet de Dieu et qu'on en fait partie, il nous manque quelque chose. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions être passionnés par cet évangile et désirer le partager, le faire connaître parce que nous en sommes les messagers. Les ambassadeurs. Dieu a fait reposer sur des hommes, sur des porte-paroles, des prédicateurs, son évangile depuis toujours. Il nous a été prêché du ciel par Dieu lui-même, par des anges, par le Fils qui est venu. Il l'a confié à des apôtres, qu'ils l'ont confié à des disciples et qui nous est maintenant confié. Soyons de fidèles gardiens de cet évangile à notre tour. Que le Seigneur nous enflamme par sa parole. Amen.